On en parle. On en parle. Le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Je m'amusais parce qu'il y avait le micro qui était détecté pendant le générique, donc je trouvais ça rigolo. Ça va ? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour les gens. Vous allez bien ? Est-ce que vous êtes prêts pour 2 heures de fun en compagnie de Kassim et des news ? Il y a plein de news, mais il n'y a pas plein de news. Et je suis un petit peu enrhumé, très légèrement, mais tout va bien. Parce que c'est sur internet, donc il n'y a pas de problème. Bonjour, bonjour Dadou, bonjour Lord Gibus, bonjour Gundor, bonjour Sir Newt, bonjour les gens, bonjour. Image perdue, réseau 0, me dit OBS, bah, tant mieux. 30 FPS, tout va bien, le rec a commencé, le live aussi, incroyable merveille de technologie. Et ce matin, on va parler un petit peu, on va parler quand même pas mal de smartphone. J'espère que tout marchait bien. On va parler de smartphone, on va parler un petit peu de gaming, de jeux vidéo. De quoi on va parler ? Je peux parler de l'iPad, l'iPad mini. J'ai testé pour vous cette nuit, je pense que je reparlerai dans mon test. Et j'ai testé la restauration de données de macOS. Nothing Phone, oui, on va parler. Je l'ai mis dans la catégorie, les nouveaux smartphones. J'ai testé la restauration d'images, enfin de données par rapport à... on va peut-être parler du PSVR 2 aussi. Et j'ai testé la restauration de données sur un tout nouveau Mac. Par rapport, moi, au boulot, j'utilise un MacBook Air M2 pour le boulot. Et là, j'avais un nouveau Mac à tester. Et donc j'ai fait la restauration depuis Time Machine, je crois que c'est le nom. Et il a fait ça pendant toute la nuit, et ma foi, ça marche très bien. J'ai récupéré, enfin c'est vraiment incroyable. Comme c'est un clone de mon Mac, vraiment la nouvelle machine, du coup, c'est toutes les données, toutes les sauvegardes des utilisateurs, les applications étaient reconfigurées correctement, les données, tout. Tout allait bien, parfaitement en ordre. Voilà. Petite notification. Alors, lançons-nous. Il est 37, je vous ai laissé un petit peu de générique en plus. Donc on va se lancer, et on va se lancer dans les nouveaux smartphones, parce qu'en plus il y a des gens dans le chat qui en parlaient déjà. Ça marche très bien, je voudrais ça sur Windows, oui, clairement. Il y a des systèmes un petit peu similaires sur Windows, mais ça marche jamais aussi bien, c'est jamais bien aussi pris en charge. Surtout que les trucs genre sauvegarde des données, il y a des trucs que Microsoft a un peu laissé de côté, et c'est plus vraiment géré dans Windows 11. Donc oui, je suis d'accord, il faudrait un truc aussi bien, surtout que là j'ai un NAS chez moi et j'avais configuré ça assez facilement. Maintenant, à chaque fois que le MacBook Air est chez moi, il fait ça tout seul dans son coin automatiquement. Il y a une historisation des fichiers et tout. Je peux le restaurer quand je veux. Il y a une semaine, il y a 3 semaines, il y a 3 mois. Et ça se configure très facilement et ça se fait tout seul automatiquement. Assez pratique. Bon, après, tout n'est pas rose sur macOS. Si vous avez vu sur Twitter, j'ai un problème. Le MacBook Air en question, et ça n'a rien à voir avec la sauvegarde, c'était avant. Rien à voir avec ça, mais le MacBook Air me demande mon mot de passe de compte Apple, et à chaque fois que je le rentre et que je valide, il me dit que tout est ok, et dans les paramètres de macOS, il me demande quand même de me reconnecter à mon compte et qu'il y a un problème de synchronisation. C'est impossible, il faut déco et reco. Ah, comme c'est pratique. Comme c'est pratique, moi je ferai ça du coup, je testerai. On nous dit que sur macOS, on nous dit que chez Apple tout fonctionne, mais pour ce, on va parler de smartphones sous Android. Alors, vous vouliez parler du rien téléphone. Je fais cette blague et je sais pas qui a écrit le Texpresso. C'est Titouan, ben, c'est incroyable. On est connecté avec Titouan. Je fais la blague et je vais sur le Texpresso et je vois le rien 2. Et enfin, c'est voilà, ça me fait rien. On fait les mêmes vannes, c'est horrible. Hop là. Du coup, le Nothing Phone 2. Tentative d'humour à 9h40. Ah, si tu savais, moi, à 7h du matin, je fais déjà des tentatives d'humour. Alors, Nothing Phone 2. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui étaient intéressés par le Nothing Phone 1 ou par qui ont suivi un petit peu le premier téléphone, parce que moi j'ai suivi ça de loin, je dois l'avouer, mais c'était assez enthousiasmant chez Frandroid. Parce que c'est pas tous les jours qu'il y a une nouvelle marque de smartphone. On avait hâte de le tester. Mais du coup, bon, il nous avait fait quand même plutôt bonne impression, le Nothing Phone 1, faut bien l'avouer. Pas parfait, mais voilà. Tu vis de loin et ça me dit rien. Le Nothing Phone, bah, du coup, c'était ce téléphone avec une magnifique lumière et un dos transparent à l'arrière. Alors ça, c'est le grand truc de Nothing, tous leurs écouteurs, leurs smartphones et compagnie. Et à chaque fois, le châssis est transparent, voilà. Ça, vous voyez l'intérieur du téléphone, alors qu'en réalité, vous le voyez pas du tout. c'est impossible de montrer. De nos jours, c'est devenu impossible de montrer l'intérieur d'un téléphone. Hein. Il y a trop de composants, c'est trop un sandwich, c'est trop compliqué pour pouvoir le faire. Mais du coup, et puis il y avait cette grosse LED au dos. Ah, pardon, oui, ça te dit rien dans le sens que tu l'as pas acheté, oui. Et donc, alors là, je vais lire en même temps que vous, mais. Donc, on aurait peut-être un Nothing Phone 2 dans pas trop longtemps. Donc, dans une interview à Inverse, Carl Pei, donc l'ancien de OnePlus et qui est désormais créateur et PDG de Nothing, a confirmé le lancement du prochain Nothing Phone 2, un smartphone qui sera plus premium et dont l'argumentaire de vente sera toujours tourné vers le logiciel. Alors, il y a près de deux mois, il annonçait qu'ils allaient se concentrer sur le suivi logiciel du 1, plutôt que de s'engager sur le développement d'un 2. Et finalement, le 2, il est bien en production parce que quand même, c'est pratique de vendre des trucs pour faire de l'argent. Donc, de faire seulement un smartphone tous les X temps, comme ils en avaient pris un peu le chemin, finalement, ils vont faire un smartphone plus régulièrement, comme toutes les autres marques de smartphones du monde. Et ils précisent aussi vouloir faire des États-Unis la priorité en termes de marché. La fréquentation des magasins par les personnes qui cherchent de nouveaux téléphones n'a pas augmenté, et le marché américain ne propose que peu de variétés en termes de smartphones. Nothing voudrait continuer de s'insérer dans la course en étonnant les consommateurs tout en offrant un bon rapport qualité-prix. C'est quand même l'une des forces du Nothing Phone 1, c'était son rapport qualité-prix. Il ajoute que le Phone 2 sortira plus tard cette année et qu'il sera plus haut de gamme que le précédent. Pour autant, il ne qualifie pas le smartphone de flagship. Selon lui, le Phone 1 en était déjà un. Carl Pei, ces deux modèles seront des produits phares. Donc des deux, ce sera deux flagships. En tout cas, le Phone 2 sera un flagship au même titre que le Phone 1, donc il aura à peu près le même niveau de gamme, probablement. Peut-être un peu mieux, mais pas beaucoup plus pour garder, j'imagine, le prix. Ce sera un peu plus cher, mais j'imagine qu'ils veulent quand même essayer de garder un prix attractif. J'ai tweeté auparavant que nous n'allions pas lancer le Phone 2 de sitôt, et ça signifie pas que nous ne le lancerons jamais. Le rattrapage aux branches. J'en ai eu juste marre des gens qui lancent des téléphones tous les deux mois et ne le soutiennent pas. Coucou Xiaomi, j'imagine. La petite attaque. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'il faut lancer les produits à une cadence saine et que nous sommes en mesure de soutenir le produit du côté logiciel et de continuer à l'améliorer. Alors, à votre avis, à combien de temps avant que le Phone 1 soit quand même abandonné ? Carl Pei nous apprend que sa marque a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires 10 fois supérieur à celui de 2021, qui représente plus de 200 millions de dollars américains. PDG précise avoir déjà expédié plus d'un million de produits, ce qui comprend aussi, évidemment, les écouteurs sans fil vendus beaucoup moins cher, donc plus simple à écouler. Pour la marque, ça permet de valider le fait que ces produits font l'objet d'une demande, et ça lui a donné un poids de plus en plus important auprès des fournisseurs de composants et des usines, évidemment. L'équipe en interne en a hâte de suivre, puisque la société est passée de 200 à 400 salariés dans les domaines de la certification des transporteurs, l'assurance qualité, le marketing, la logistique, de détail. Bref, oui, tous les métiers qui peuvent être aussi des métiers support. C'est pas forcément que des
concepteurs. Ouais.
C'est pas forcément que des concepteurs de smartphones. Ça peut être aussi ça peut être tous ces métiers-là et les métiers annexes, les métiers support, les métiers de marketing, etc. Donc ça fait pas mal de personnes. En plus, vous multipliez ça par le nombre de pays où il faut des départements marketing dans chaque pays. Ça va assez vite. Il y a aussi beaucoup plus de personnes affectées sur les logiciels, passant de 5 au lancement du Phone 1 à près de 100 aujourd'hui. Donc ça fait du monde pour développer les mises à jour. L'objectif de Carl Pei est de proposer une expérience vraiment rapide et fluide basée sur Android. Précise que la version bêta de Nothing OS basée sur Android 13 est entièrement réalisée en interne. C'est vrai que je crois que les premières versions du Phone, le logiciel avait été co-développé en externe. Enfin, il a son ambition de développer des boutiques Nothing aux États-Unis de façon progressive. Le premier magasin de la marque a ouvert en décembre à Soho, à Londres, le mois dernier. Ah, une petite répétition. Précise que c'est en décembre. On n'a pas forcément besoin de répéter que c'est le mois dernier, surtout que quand on va lire cette news en février, ce ne sera plus le mois dernier. Qui a écrit ceci ? Hugo, faut que je te tape sur les doigts. Attention, répétition. Et je ne sais pas qui a relu. Ce qu'on peut imaginer du Nothing Phone 2. Donc oui, un système de base. Alors ça, dans le chat, je vous ai vu tous en parler. Un système de LED plus personnalisable au dos, notamment avec peut-être du RGB pour choisir la couleur. Je crois qu'aujourd'hui, sur la première version, je crois que c'est blanc ou rien, avec peut-être une API plus ouverte effectivement pour que les développeurs d'applications puissent y brancher les notifications et ce genre de choses. Qui se souvient que les premiers smartphones Android avaient tous une LED de notification et que c'était un point de distinction par rapport à l'iPhone et que ça permettait de sans écrans always on de savoir quand on avait reçu des notifications et justement les LED pouvaient changer de couleur en fonction de si votre téléphone n'avait plus de batterie. Il y avait une LED rouge qui s'allumait. Si vous avez reçu un SMS, c'était une LED verte, une LED bleue pour certains trucs, pour Facebook Messenger, etc. C'était un gros point fort d'Android à l'époque. Côté composants, si Carl Pei parle d'un, problème, d'un modèle premium, c'est qu'il pourrait y avoir du changement au niveau hardware. Si on regarde les éléments qui pourraient évoluer, on peut exclure l'écran qui est déjà relativement bon avec de l'OLED en 120 Hz. Le plus intéressant, ça se situe sans doute au niveau du SoC, et oui. On peut rêver à, et se dire qu'avec un prix aux alentours de 800 euros, Nothing arrive à proposer le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui devrait arriver pour les Galaxy S23 et S23 Ultra très prochainement. Ce n'est pas le cas, le constructeur pourrait se rabattre sur le 8 Plus Gen 1 ou sur un autre SoC, on verra bien. Des rumeurs rapportent de plus que Nothing pourrait lancer une nouvelle marque baptisée Particle by XO. J'espère que vous avez apprécié le, l'accent. Avec des écouteurs sans fil. Donc j'ai quand même toujours un petit peu le sentiment avec Nothing que ça s'éparpille et que ça. Enfin, surtout que ça. Il y a plus de budget dans la com que dans la conception des produits. Genre, vraiment, j'ai l'impression que c'est ce genre de truc. Vraiment en train de réfléchir à des nouvelles marques et tout, alors que c'est déjà une marque qui vient de se lancer. Un peu surréaliste des fois. Smartphone suivant. On parle de Activision là. Ah oui, qu'est-ce que pourquoi le but. Par rapport à la com. Le smartphone, hop là. Et on va partir sur cette news là parce que du coup on est sur les nouveaux smartphones. Alors avant de faire cette transition, je vais rappeler que du coup le gros lancement cette semaine c'est les Galaxy S23. J'aurais plus dormir la nuit. C'est les Galaxy S23 de Samsung qui seront lancés dès demain. Demain en fin d'après-midi, soirée. On va faire un gros live sur Fandroid, un live sur Twitch. On va faire aussi. Il y aura plein de choses, il y aura plein d'événements autour. Est-ce que vous avez hâte de les découvrir, ces Galaxy S23? Car je sais, si vous ne suivez pas l'actualité, bois-toi un café. Oui, il faut que je. Car je sais que les Galaxy S23. Vous ne connaissez rien, ils ont absolument pas du tout fuité, personne n'est au courant, tout le monde attend vraiment la conférence pour découvrir ces téléphones, et la surprise va être totale, vraiment, aucun, un double expresso, pas un américain, oui. Vraiment, on a vraiment aucune idée de à quoi va ressembler le Galaxy S23, et vraiment la surprise va être totale, donc on a vraiment hâte de suivre tout ça et de suivre la conférence et de et la surprise c'est l'augmentation des prix. Ouais, bah, on va voir justement. Alors j'étais sarcastique quand je disais qu'on n'avait pas de surprise. On a déjà les fiches de spec et je vois pas la surprise. Oui, on verra, il faudra les avoir en main. Il y a des trucs qui ont l'air intéressants, mais oui, clairement, comme chaque année, c'est un peu compliqué pour Samsung de garder le secret sur leur téléphone. Beaucoup de com sur des innovations qui ne bouleversent pas l'usage du téléphone, et oui, le marché est très mature maintenant, et donc il n'y a plus beaucoup de nouveautés. Là encore, nous on a de la chance, on vous en reparlera, mais on a de la chance visiblement, les Galaxy S23, enfin c'est même sûr, ça a été annoncé par Qualcomm, auront une puce Snapdragon 8 Gen 2 qui fera une vraie nouveauté par rapport aux smartphones des générations précédentes, puisque en Europe nous on avait les puces Exynos jusqu'à présent, et donc là nous ça va faire une vraie nouveauté. Mais par exemple pour les Américains qui avaient déjà les Snapdragon les années précédentes, la différence entre le S22 et le S23 a l'air assez faible, mais bon, on verra, peut-être qu'il y aura des surprises aussi pendant la conférence. On n'est jamais à l'abri de surprises. Là ce qui a fuité beaucoup c'est les photos et les caractéristiques techniques, mais souvent il peut y avoir des surprises pendant les conférences côté logiciel. C'est aussi pour ça que nous, côté Fandroid, on est sur le pont à être attentif aux nouveautés, parce qu'évidemment, si on se contentait de croire toutes les fuites, on aurait moins. Enfin, la conférence serait pas très importante, mais en l'occurrence, il peut toujours y avoir des surprises. Donc voilà. Attention, 8 Gen 2 fabriqué par Samsung et non TSMC. Oui, faudra voir justement dans les détails, on va voir un peu quelles sont ces infos, est-ce que ça va être du coup les mêmes performances et tout ça. Enfin bref, il y a plein de trucs à vérifier. Charge ultra rapide 45 watts, écoute, ce serait déjà pas mal. En vrai, 45 watts, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Et les fabricants chinois vont un peu loin avec leur charge rapide. 45 watts, c'est pour un smartphone. Ça fait quoi? Ça veut dire qu'on va le recharger en. S'il se charge vraiment à 45 watts, ça veut dire quoi? On va le charger en moins d'une heure, quoi. 40 minutes, un truc comme ça. Enfin, c'est. Le 3 février, présentation des Vivo X86, ce sera plus intéressant. Mais oui. Non, mais voilà, on arrive dans la saison des nouveaux smartphones. Ça va être le feu. Alors après, il faut voir les smartphones qui arriveront en Europe, hein, parce que je suis pas sûr que le. Enfin, je sais plus quel. Dans les smartphones chinois, c'est toujours un peu difficile des fois de savoir lesquels sortent et quand en Europe. On a aussi le Mobile World Congress à la fin du mois, tout à fait. Ce serait bien un petit retour de Intel sur le marché des CPU sur smartphone, ça ferait baisser les prix. Alors là, je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. Versus 80% en 20 minutes sur les 120 watts de Xiaomi. Ouais, mais 120 watts, 120 watts, c'est sympa, mais honnêtement, c'est pas grave s'il n'y a pas de 120 watts, quoi. 120 watts, c'est la puissance de charge d'un PC portable, quoi, haut de gamme. Calmons-nous, les gens. Perso, tu peux plus te passer du 120 watts. Ouais, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est le fait que souvent, ça suit pas forcément les normes Power Delivery. Et du coup, moi, j'utilise pas forcément les chargeurs j'utilise pas forcément les chargeurs des constructeurs. Et du coup, quand tu le branches sur un chargeur classique, du coup, ça charge pas forcément à 120 watts. Même, je veux dire, même si ton chargeur. Moi, j'ai un chargeur 100 watts pour PC portable. Je suis pas sûr que le smartphone, du coup, se charge à 100 watts, quoi. Bref, il va y avoir un nouveau concurrent pour Samsung, en tout cas, ça c'est sûr. C'est du côté de Honor, puisque Honor, il nous donne rendez-vous. Je peux même vous le confirmer. Il y a une conférence. Attendez, je vais vous confirmer ça en direct. Honor. Il y aura une conférence le 27 février à 13h30 heure française qui aura pour but de notamment présenter le Honor Magic VS ou 5S comme vous voulez. En fait, il s'appelle V parce que c'est la lettre que les fabricants adorent pour les smartphones pliables puisque ça fait la forme, si je le fais à la caméra, ça fait la forme du pliable. Donc V, apparemment OnePlus, pareil, s'ils font un smartphone pliable, ce serait le OnePlus V. Donc on va dire V parce que c'est la forme et pas 5 parce que c'est le chiffre. On va parler de V, ok. En plus, ils ont un Honor Magic 5, donc bref. Donc c'est le Honor Magic VS. Et du coup, on nous dit. Mais du coup, voilà, bon, bref, du coup, donc Honor va présenter en grande pompe des nouveaux smartphones au Mobile World Congress et notamment leur premier pliable. Et donc, il va y avoir probablement un lancement d'un pliable en Europe et c'est tant mieux puisque jusqu'à présent les pliables c'était Samsung en France et c'est dommage parce que les concurrents peuvent faire des belles choses. Notamment, on a eu plusieurs fois en main les smartphones de Oppo dans les années précédentes, que ce soit étirables ou pliables, etc. On trouvait que c'était plutôt très intéressant. Je me rappelle d'une vidéo. Est-ce que je peux vous retrouver cette vidéo? On avait fait une vidéo il y a quelques semaines, mois. Voyons. Je vais vous retrouver ça immédiatement. Vous voyez de quelle vidéo je parle. Est-ce que vous suivez la chaîne Fandroid sur YouTube? C'était le Vivo X-Fold, voilà. Si je fais ça, est-ce que la pub... Oui, la pub. Ah bah, la pub avec le, bien sûr, pub pour le Galaxy S22, alors que le... Voilà. Bonjour, Titouan. Et voilà, on avait fait une vidéo. J'ai le son dans les oreilles. On avait fait une vidéo... Il y a Titouan qui est en train de vous présenter la vidéo. Coucou. On avait fait une vidéo sur ce Vivo X-Fold, prise en main du Vivo X-Fold. Que je vous invite à aller voir et ils vont montrer. Et vous voyez que là, ça c'est le Samsung. Et le Samsung, il y avait un trou dans la pliure, alors que le Vivo X Fold, quand il se plie, voilà. je vais doubler tout devant.
Oui, alors là, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre. Et hop, c'est vraiment très plat, c'est vraiment très bien.
Voilà, je l'imite très bien. La forme d'écran est en goutte d'eau et c'est une des grosses innovations des fabricants chinois par rapport à Samsung. Mais malheureusement, Samsung, ils étaient tout seuls en France et donc on n'avait pas de concurrence et donc c'était un petit peu pénible. Donc ça, de voir les fabricants chinois comme Honor du coup se lancer. Alors on verra si le Honor Magic VS est aussi cool que le Vivo X Fold que l'on avait eu en main, mais c'était cool. Et on me dit moi sur ce type de tel j'attends le déroulable. Et ben on avait aussi pris en main, je peux imiter Oppo Find, comment il s'appelait, 2020, je ne sais plus comment il s'appelait, bon c'est pas grave. Ah, c'était ça, on va lancer après les annonces. Ah, les publicités sur YouTube, est-ce qu'on en parle? Et du coup, c'était le... Ah oui, Oppo était... Ok, oui, merci. Vous me dites dans le chat, c'est bien. Vous êtes meilleur que moi pour les noms de smartphones. J'avoue que je l'avais un peu oublié. Voilà, du coup, on va reprendre une pub. Mais Adblock, mais non, nous vivons de la pub. On va pas mettre Adblock. On se rémunère grâce à la pub. Je suis en train de... Là, en regardant cette pub avec vous, je paye mon propre salaire. Donc, calmons-nous. Voilà, du coup, je vais pouvoir imiter Omar. Non, je ne vais pas imiter Omar. Voilà, c'était le smartphone étirable de Oppo. Et ma foi, voilà. Regardez, il va s'étirer devant nous. Dès qu'Omar va trouver comment ça marche, il va y arriver. Voilà. Et ça, franchement, c'était pas mal. C'est pas mal du tout. Et j'avoue que c'est aussi un truc que j'attends. Donc, on n'a pas encore vu le jour. On l'a pas encore vu arriver côté commercialisation. Mais honnêtement, la prise en main, c'était super impressionnant et ça marchait bien. Et maintenant, je suis en train de remarquer que Omar, il a essayé de lancer une mode à l'époque. C'était la mode de la manche pas tout à fait au même niveau. Est-ce que vous êtes plutôt manche au-dessus du coude ou manche au niveau de l'avant-bras? Voilà, vous dites, dites-moi dans le chat quel bras vous préférez. Maintenant, je vois que ça. Et j'ai fait un magnifique arrêt sur image sur Omar, en plus, le pauvre. Donc Honor, team manche symétrique. Ah, je suis méchant avec mes pauvres collègues qui n'ont rien demandé. Voilà, Honor, on verra, il faudra découvrir le prix, les caractéristiques et compagnie. Et en plus, il avait déjà été annoncé en Chine, le fameux Magic, et on a hâte, on a hâte de le découvrir en vrai. Le jour où les États-Unis resanctionnent Honor, finito la fin pour échapper aux sanctions. Oui, pour l'instant, en tout cas, ils sont pas concernés. Mais il y a toujours le côté qu'ils ont évité un peu les affaires de Huawei. Mais officiellement, c'est une marque distincte, donc il n'y a pas de raison de les sanctionner, puisque notamment, ils ne font pas d'antenne. Un des points qui avait posé problème avec Huawei. Et donc voilà pour, d'ailleurs, Huawei, si on veut en parler vite fait. Selon les informations du Financial Times, l'administration Biden aurait suspendu les licences permettant à certaines entreprises de faire affaire avec Huawei. Donc la fameuse liste de problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ce qui a permis jusqu'à présent à Intel de fournir Huawei de processeurs pour ses PC portables, Qualcomm pour les smartphones, ou Microsoft avec Windows. Néanmoins, voilà. Donc ils ont renforcé leur position chez Biden, donc aux États-Unis. Plusieurs personnes proches du sujet au sein de l'administration ont affirmé que le département du commerce avait informé certaines entreprises qu'ils ne pourraient plus accorder de licence au groupe américain exportant des technologies à Huawei. Donc très concrètement, j'ai bien peur que ce soit peut-être la fin des PC portables Huawei dans un avenir assez proche. Si cette décision devait empêcher les prochains produits Huawei d'embarquer des puces Qualcomm ou Intel ou les PC de la marque de profiter de Windows, en ignorant à quel point ces nouvelles sanctions pourraient porter atteinte à la santé économique de Huawei. Il faut dire que depuis 2019, le groupe chinois c'est de plus en plus orienté vers le marché des infrastructures et la fourniture de services aux entreprises et au gouvernement, notamment le gouvernement chinois. La vente de produits aux particuliers ou d'antennes 5G aux opérateurs a quant à elle drastiquement chuté. Donc on verra ce qu'il en sera. Mais oui, si Huawei ne peut plus faire de PC portable, ça va être très compliqué. Alors, on parlait de l'iPad maintenant, tant qu'on est encore un peu dans la mobilité. Ça m'intéresse, cette news. 99% des processeurs pour PC sont américains, donc bon, oui, clairement, AMD, Intel, Qualcomm... Apple, ça fait beaucoup d'Américains. Même si après ils sont fabriqués en Asie, ils sont conçus aux États-Unis en effet. Ça reste une des forces des États-Unis. Donc même Cyrix c'est américain. Même Texas Instruments bien sûr est américain. On fait pas plus américain que Texas Instruments. Les mecs ont mis Texas dans le nom de leur marque. Donc c'est Ming-Chi Kuo, l'analyste c'est un analyste qui travaille avec les chaînes d'approvisionnement d'Apple. Donc du coup il n'y a pas de fondeur chinois. Je suis sûr qu'il y en a, mais des fondeurs de premier plan, ça me dit rien là comme ça. Comment il s'appelait celui avec lequel travaillait AMD? C'était pas Pegatron, comment il s'appelait? Ah, j'ai oublié son nom. iSilicon, je crois pas qu'il soit fondeur. Ils font de la conception, mais je suis pas sûr qu'il soit fondeur. J'ai oublié le nom. Fonderie quelque chose, je sais plus. Bref. Je crois que oui, il y avait des fabricants, où il y avait des fondeurs chinois, mais honnêtement, maintenant, il n'y a plus vraiment d'alternative à TSMC et taïwanais. Global Foundry, oui, je crois qu'ils sont chinois. Ou ne le sont-ils pas du tout? Digital Foundry, non, c'est autre chose. Non, pas du tout. Global Foundry, ils sont américains. Je ne sais pas s'il y a des fondeurs chinois. MediaTek, c'est taïwanais. Oui, alors pareil, c'est de la conception. Oui, est-ce qu'ils sont taïwanais, MediaTek? Je ne sais plus. Ils sont taïwanais. Ok. Mais en tout cas, là, c'est, on parle de conception et pas de fabrication. Pardon, Digital Foundry, c'est juste, c'est rigolo. C'est le média britannique, enfin anglophone en tout cas, qui appartient à Eurogamer et qui est la chaîne YouTube spécialisée dans le test de technique de jeux vidéo, on va dire, qui est très connue pour ça. Très très bonne chaîne hein, sur YouTube, chaîne de référence sur YouTube. Mais du coup, c'est rigolo. Pas de rapport avec la fabrication de puces pour le coup. Donc revenons à nos moutons, on a notre cher Ming-Chi Kuo qui a fait des analyses sur l'iPad, qui a fait des prédictions plutôt sur l'iPad. Donc pour rappel, encore une fois, il fait des prédictions basées sur les chaînes de production, sur les fournisseurs d'Apple. Donc du coup, il peut essayer de plutôt bien prédire les choses. Il voit souvent assez juste. C'est pour ça qu'on le prend comme source. Donc, il précise qu'il n'y aurait pas d'iPad mini en 2023, mais que on aurait le droit à un nouvel iPad mini en 2024. En même temps, l'iPad mini sous sa forme actuelle, faut que je le mette devant ma tête pour qu'on voit. Bah, il marche très très bien. Et surtout, il n'y a pas grand chose à lui. Je sais pas ce qu'on peut demander de plus à un iPad mini, honnêtement. Il a un écran bord à bord, il a de l'USB-C déjà. Il a une puce très performante. Après oui, bon, il a pas un écran ouf, mais il a un bon écran quand même. Il a un très bon écran LCD. Il a le Touch ID. Bon, bref, pas grand chose à lui demander. Il a même Face ID. Il a Touch ID. On va peut-être lui demander d'avoir Face ID et un meilleur écran, quoi. Mais sinon, honnêtement, il est pas mal actuellement. Donc Ming-Chi Kuo, il nous indique que il nous prédit que l'iPad mini nouveau commencera sa production en masse début 2024. Où il évoque aussi un futur iPad pliant. Souvent bien renseigné quand il s'agit d'Apple, l'analyste estime qu'Apple n'aurait aucun projet particulier pour ses iPad mini en 2023. L'iPad mini qui avait été renouvelé de fond en comble à la rentrée 2021 ne serait donc pas remplacé avant le premier trimestre 2024, donc ça laisse un peu de temps. Mais encore une fois, moi je suis assez team, laissons le temps des nouveautés arriver, il n'y a pas besoin de changer l'iPad mini chaque année, honnêtement. Puis il est déjà assez cher comme ça en plus, donc évitons de donner des raisons à Apple d'augmenter son prix encore. Cela signifierait qu'Apple ne compterait pas lancer de nouvel iPad dans le courant de l'année 2023. Faut dire que ils ont pas mal renouvelé leur gamme, qui est devenue assez complexe d'ailleurs, puisqu'il y a l'iPad 10, il y a l'iPad Air, il y a l'iPad Pro. Et il y a l'iPad mini avec à chaque fois des écrans différents, des tailles différentes, des prix différents et des avantages chez l'un que tu ne retrouves pas chez l'autre. Par exemple, j'en reparlais encore avec Hugo hier, le fait que l'iPad Pro a une caméra sur le côté, c'est-à-dire que l'iPad Pro est fait pour être utilisé comme ça, en format paysage, et la caméra elle est là sur le côté. Donc quand vous faites du zoom, vous avez l'écran qui vous filme à moitié, alors que ce qui est attendu, ce serait plutôt qu'elle soit la caméra frontale, soit au-dessus de l'écran, comme sur un PC portable. Et c'est le cas sur l'iPad 10, qui est l'iPad grand public, mais pas le cas sur l'iPad Pro, qui est l'iPad hors de prix. Donc c'est un peu dommage. Donc ça fait partie des trucs sur lesquels Apple doit travailler, et qui font, enfin, leur gamme aujourd'hui d'iPad, elle est à la fois complexe et un peu incohérente, donc vivement qu'il retravaille un petit peu tout ça. Quel iPad je conseille? Je suis sûr qu'on a un guide d'achat très très bien renseigné sur Fandroid, mais moi, à titre personnel, je conseillerais plutôt, si on a le budget, l'iPad 10, donc l'iPad grand public, et si on n'a pas le budget, de prendre un iPad en reconditionné de la génération précédente ou il y a deux générations, qui sont très bien. Après, j'avoue que le fait que les iPads de génération précédente utilisaient encore le Lightning, c'est un peu dommage, et l'écran n'était pas ouf. L'iPad 10, vraiment, corrige tous les points, mais il est vraiment très cher. Donc, cette nouvelle génération d'iPad mini, la 7e, n'apporterait pas de nouveautés majeures sur le plan du design. Bah, en même temps, le design, il est vraiment très d'actualité. Le principal changement serait plutôt le processeur, donc la puce, le SoC choisi pour remplacer la puce A15 Bionic du modèle actuel. Cette puce, potentiellement l'A17 Bionic, serait vraisemblablement plus performante et plus efficace sur le plan énergétique. Bon, là encore, qu'on a vraiment besoin de mieux qu'une A15 Bionic pour un iPad mini, sachant que l'iPad mini n'est pas conçu pour faire des tâches non plus excessivement lourdes, on va pas faire du montage vidéo sur un iPad mini. Donc.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Donc s'il y a vraiment besoin de plus que la 15, je ne sais pas. On conserverait pour le reste le même châssis que l'iPad mini 6 avec un port USB, un lecteur d'empreintes, une option. L'écran resterait en outre basé sur la technologie LCD IPS, un format identique. Selon de précédentes rumeurs plus aventureuses, Apple réfléchirait néanmoins à ajouter sa technologie ProMotion et rafraîchissement à 120Hz. C'est vrai que normalement l'iPad mini, en fait, vu sa gamme de prix et vu son design, etc., philosophiquement pour Apple, c'est un iPad Pro. Il porte pas ce nom-là, mais c'est un iPad qui est compatible Pencil, qui vise aussi les commerces, par exemple, d'avoir un petit point de... Voilà, que vous puissiez avoir votre iPad mini dans les mains quand vous faites un conseil au client dans une boutique de vêtements haut de gamme, par exemple, ou ce genre de choses, et que vous puissiez même prendre directement la commande sur l'iPad. C'est le genre de choses... Enfin, voilà, vraiment, dans la gamme d'Apple, l'iPad mini est presque considéré comme une sorte d'iPad Pro miniature, et donc ce serait logique de lui donner le 120Hz comme les autres iPad Pro, mais à voir. Il y a un fondeur chinois qui s'appelle, on va dire SMIC du coup, même si c'est très rigolo que ce soit aujourd'hui qu'on décide de parler de SMIC dans le chat de Twitch, qui monte rapidement en compétences. Source la chronique des composants de Tech Café, très très bien. Mais oui, bien sûr, comme je disais, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des fondeurs en Chine, c'est juste des fondeurs de premier plan à part TSMC pour l'instant, et Samsung dans une certaine limite, il n'en existe pas vraiment. Donc à voir. Ensuite, du coup voilà pour c'est tout pour l'iPad mini. Est-ce que vous avez des iPads, dis donc. Est-ce que vous avez des iPads à la maison? Est-ce que vous êtes intéressé par un iPad mini? L'iPad mini est très cool quand même. Moi, j'avais pas envie d'un iPad trop encombrant. Je voulais, du coup, pour le coup, moi, c'est vraiment un iPad qui. Ça, c'est mon premier iPad. Et j'ai choisi l'iPad mini justement pour le côté prise de notes quand je suis en déplacement. Il m'accompagne et je prends mes notes quand j'ai des interviews ou quoi. Je prends mes notes dessus avec le pencil. Malheureusement, le pencil, j'ai dû le prêter à Hugo pour un test. Mais sinon, voilà. Enfin, il avait tout. Et encore une fois, l'USB-C, moi, c'est devenu un critère non négociable. Donc, j'attends pareil. Le seul appareil non USB. Ce qui me reste, c'est mon iPhone, et j'ai qu'une hâte, c'est que Apple ressorte un jour un iPhone mini USB-C, voilà. Enfin, ressorte un jour un iPhone mini, et du coup, qu'ils en profitent pour en faire un USB-C. iPad 2019 qui marche nickel, le S8 Ultra de Samsung, iPad Pro M1 16Go 1TB pour travailler, waouh, c'est grosse machine, l'iPad Pro, pas mal du tout. Le fait qu'il l'ait remplacé déjà par le M2 et tout, je trouve ça fou. C'est tellement puissant pour un iPad, la puce d'Apple. Faut vraiment réussir pour en utiliser vraiment toute la puissance, ouais, faut y aller quoi. Après, du coup, ça porte bien son nom, c'est pour les pros et il y a des usages pros pour ça quoi. Après, je voulais vous parler de jeux vidéo parce qu'il y en a qui ont parlé dans le chat aussi tout à l'heure. Puis on va se mettre sur la news PlayStation Plus parce qu'il y a du ramdam du côté du jeu vidéo. Alors, déjà, on a eu la fuite des prochains jeux qui seront offerts dans le cadre du PlayStation Plus Essentiel. On a Holy Holy World, Mafia Definitive Edition, Evil Dead The Game, Destiny 2, Beyond Light, DLC, qui seront offerts pendant tout le mois de février. Ce sera, à mon avis, confirmé d'une heure à l'autre. Enfin, ça devrait être confirmé par Sony aujourd'hui, je pense. Sinon, dans les jours à venir. Et pour l'instant, le leak vient de Bill Bitken, qui est un Français qui leak depuis, je pense, plus d'un an maintenant, les nouveaux jeux du PlayStation Plus et quelques autres éléments. Et pour l'instant, il a 100% de fiabilité. On se demande comment d'où il tire ses infos, mais il a 100% de fiabilité et ça marche. On peut le croire. Donc bon, après on verra quand Sony confirmera. Mais tant que Sony n'a rien confirmé, tout peut changer. Mais voilà, il y a des raisons. Enfin, jusqu'à présent, il a toujours vu juste. Donc on peut partir du principe qu'il voit juste. Et donc il y a notamment Holy Holy World qui était un des jeux de l'année 2022, dans une année où il y a eu quand même beaucoup de sorties. Donc non, facile de tout retenir, mais un jeu de skate très arcade, très fun, très coloré, très Adventure Time dans l'esthétique, je trouve, et vraiment très cool quoi. Enfin, donc une belle offre, sachant que il y a Xbox qui a annoncé l'équivalent, c'est-à-dire les jeux Xbox Live with Gold pour le mois de février. Voilà. Et donc, si vous êtes abonné au Xbox Live Gold, vous aurez le droit à For the King et Guts in Goals. Donc, bref, oui, non, mais bon, le PlayStation Plus essentiel, pas trop, y a pas trop testable. Je vous rappelle que c'est l'offre d'abonnement de base de Sony et de Xbox, respectivement. Et question aux journalistes. Est-ce qu'il ne faut pas diffuser des informations qui pourraient être volées afin de ne pas encourager le vol et attendre la diffusion d'informations officielles? Vous avez 4 heures. Non, pour le coup, la réponse elle est vite vue. En l'occurrence, là, pour les fuites, non, on se pose pas trop de questions parce que c'est de l'information. Alors déjà, il y a un truc qui est un peu facile, qui est le fait que à partir du moment où c'est sur Internet, les gens n'auront pas besoin forcément de nous pour être au courant. Après, il y a vol et vol. Si on parle d'infos, par exemple, privées sur quelqu'un qui est susceptible de faciliter son harcèlement, de faciliter des violences, de révéler des informations sur sa vie privée, évidemment, il n'est pas question de diffuser ce genre d'infos. En revanche, là, on parle d'une fuite pour un service d'abonnement de jeux vidéo qui sera confirmé dans les jours à venir. C'est pas très important. Les considérations ne sont pas les mêmes, quoi, on va dire. Et on considère dans ce cas-là que nous, en tout cas sur Fandroid, on traite clairement les rumeurs et les fuites. On ne traite pas tout ni n'importe quoi. Et on fait gaffe à ce que les choses soient assez fiables. Mais on considère que c'est de l'information et que ça peut aider les consommateurs, quoi, à faire leur choix. Par exemple, typiquement, si quelqu'un voulait s'acheter Holy Woolly World sur PlayStation, s'il est abonné au PlayStation Plus Essentiel, il peut attendre quelques jours et l'avoir gratuitement. Donc, en tant que consommateur, il vaut mieux l'informer de cette arrivée. Pareil pour les fuites et les rumeurs sur les téléphones. Le fait de l'informer des caractéristiques à venir du Galaxy S23 et de suivre les fuites et compagnie, ça permet aussi de savoir à quoi s'attendre, de planifier si tu avais planifié d'acheter un téléphone. Est-ce que tu as envie d'attendre? Est-ce que tu veux profiter d'un bon plan, etc. Voilà, c'est à ça que ça sert. C'est en tout cas notre réflexion quand on se pose la question de savoir s'il faut partager ou non ce genre d'informations. Après avoir été assez clair comme ça, j'ai pas pris 4 heures pour répondre, du coup. Et je suis sûr que du coup, j'ai peut-être oublié des éléments importants. Mais voilà, à chaud un peu la réponse, les principaux éléments pour comprendre un peu ce genre de décision. Et évidemment, aucun problème pour répondre à d'autres questions. Un plaisir. Mais du coup, voilà, donc ça c'est pour les jeux PlayStation Plus qui arriveront le mois prochain. Et après, il y a la question de l'E3. Alors, du coup, est-ce que je peux vous retrouver? Je vais vous trouver l'info en anglais. C'est tombé dans la nuit et on a une grosse source qui s'est avancée à publier un article. Évidemment, ça, je peux aussi en parler. C'est le fait qu'on cite toujours les sources, très important. Et en l'occurrence, c'est IGN aux États-Unis qui a publié ça. Hier soir, on est redirigé automatiquement vers IGN France, c'est pas grave. Mais du coup, on a Xbox, Nintendo et Sony qui esquivent l'E3 2023. Un article de Kat Bailey, histoire de quand même parler de la journaliste qui est à l'origine du truc. Je préférais le thème sombre, mais bon, c'est pas grave. Donc on a l'E3, le plus gros salon du jeu vidéo. C'était le moment le plus important pendant plusieurs années de l'industrie du jeu vidéo. C'est des début juin. Et c'est le moment où l'industrie ne respire plus et où l'industrie s'arrête et c'est le moment le plus important de l'année où tout le monde présente ses plus gros jeux. Et historiquement, pendant longtemps, c'était l'année où tu avais Xbox. J'aime pas le 3, je préfère le 4. Oui, d'ailleurs, j'avais un titre griffou, c'était... Ah, j'ai oublié. Les 3 ne seront pas le 3. Ou un truc comme ça. J'ai oublié de le noter. C'était les 3 ne seront pas le 3. Xbox, Sony et Nintendo esquivent le plus gros salon du jeu vidéo, quoi. Ou un truc comme ça. Un truc dans l'idée. Bref, donc on a Xbox. Xbox, Nintendo et Sony qui avaient l'habitude de s'affronter sur ce salon. Donc il faut s'imaginer vraiment, pendant quelques jours, tout le monde va présenter ses jeux et juste avant l'ouverture du salon, chacun présente sa grosse conférence et on avait Nintendo, Sony et Xbox qui, à quelques heures d'intervalle, présentaient leurs plus gros trucs. Et à ce moment-là, par exemple, où Xbox a annoncé que la Xbox One allait coûter 500€ et que PlayStation, littéralement 5-6 heures plus tard, annonçait que la PlayStation 4 allait coûter 400€ et qu'ils ont laminé Xbox. D'ailleurs, c'était pas la première fois que PlayStation faisait ça. À l'époque, la première PlayStation 1 avait réussi un énorme coup marketing à l'E3 en annonçant un prix défiant toute concurrence quelques heures après Sega et la Saturn. Donc, c'est pour vous montrer à quel point l'E3 a toujours été très important dans l'histoire du jeu vidéo, dans l'industrie. Moins depuis quelques années, moins depuis même avant le Covid, ça commençait déjà à perdre en importance parce que Twitch est arrivé. parce que Nintendo, par exemple, a quitté l'E3 et s'est mis à faire des Nintendo Direct où ils maîtrisaient totalement leur communication. Puis Sony a quitté l'E3 aussi à partir de 2018-2019. Ils étaient de moins en moins présents. Et à partir de 2019, ils n'étaient plus du tout présents. Je crois qu'en 2019, ils ont quand même fait une conférence. Ou en 2018, ils ont quand même fait une conférence, mais qui n'était pas à l'E3. Et ils n'étaient pas présents dans le salon lui-même. Et ensuite, c'est Microsoft qui était un peu moins présent aussi, puisque notamment leur conférence, ils la faisaient à l'extérieur de l'E3, au Microsoft Theater, qui est une salle de conférence qui est littéralement en face du centre des expos de l'E3. Donc vraiment... pas très loin non plus. Hein. Et après, Xbox était quand même resté le plus longtemps possible sur le salon lui-même, parce qu'ils étaient très en fait, l'E3 est organisé par, en gros, les représentants des distributeurs. Et Microsoft avait des billes dedans, et donc voulait encore soutenir le truc le plus longtemps possible. Et puis, c'est le plus challenger des trois, donc c'est celui qui a le plus besoin de gagner des parts de marché, donc c'est celui qui a le plus besoin de se faire voir, et donc ils ont essayé de soutenir le truc jusqu'au bout. On en arrive après au Covid qui a annulé l'E3, puis 2021-2022 où l'E3 se cherchait un peu, l'année dernière c'était que en digital, enfin en numérique, et c'était pas terrible, et on en arrive à 2023 où l'E3 avait annoncé qu'ils allaient préparer leur grand retour, que c'était l'année de l'E3, 2023, beaucoup de fois 3, et du coup, on apprend, grâce à IGN, que ni Xbox, ni Nintendo, ni Sony ne seront présents. Et donc, si aucun des trois n'est présent à l'E3, bah, du coup, ça fait vraiment beaucoup de force en moins, et beaucoup d'énergie en moins, pour ce qui est censé être le plus gros salon du jeu vidéo. D'autant plus qu'il n'est pas sans concurrence. Alors déjà, chaque fabricant, du coup, préfère maintenant gérer sa propre communication. Par exemple, Xbox, là, en janvier, ils ont fait un développeur direct où ils ont pu présenter quelques jeux, dont Hi-Fi Rush, qui a fait un beau carton. Sony a ses State of Play, Nintendo a ses Nintendo Direct. Donc, ils ont, quelques instants plus tard, a pu s'adresser au PDG d'Xbox, Phil Spencer, voilà, IGN. Et donc, il avait indiqué qu'il préparait un showcase dans une période pratique aussi bien pour la presse que pour les joueurs de jeux vidéo. On peut le dire dès maintenant, très clairement, ils ont toujours communiqué dessus. Il y aura un événement en juin, très probablement, ou autour du mois de juin, chez Xbox. Ils adorent cet événement-là, ils adorent faire leurs grosses conférences, ils la font tous les ans. Seulement, la question, c'est est-ce que ce sera labellisé E3 ou est-ce que ce sera vraiment complètement séparé. Donc, il a également souligné l'appréciation de Xbox envers la convention estivale ainsi que l'ESA. Donc, l'ESA, c'est le nom de l'association dont je parlais tout à l'heure, et le regroupement des distributeurs. C'est un peu comme si. En France, Micromania et les autres boutiques de jeux vidéo se réunissaient, plus Ubisoft, plus tout ça, se réunissaient pour faire un salon du jeu vidéo. Bah, c'est un peu la Paris Game Week d'ailleurs. C'est l'équivalent, mais aux États-Unis. Donc, ils vont probablement. Enfin, ça serait pas étonnant qu'ils fassent quand même une conférence autour de l'E3, mais peut-être qu'elle ne s'appellera pas du tout E3. Mais ça reste, de toute façon, Microsoft reste le plus gros soutien de cet événement-là. Mais clairement, Sony et Nintendo, déjà, ils s'en sont déjà détournés. Et malgré tout ça, ils ne seraient pas dans les exposants du salon. Alors, du coup, on peut se demander qui aura comme exposant, parce que historiquement, il y avait déjà plus beaucoup de monde dans les gros. Et c'est important, les exposants, parce que c'est ce qui finance un salon quand tu payes le mètre carré. Donc voilà, après ils expliquent ça aussi par les jeux qui sont prévus où ça risque de pas coller. Nintendo avait conservé une présence physique dans le stand de l'E3 avant la pause de 4 ans, et même après avoir développé le format Nintendo Direct, c'est vrai. Cependant, ni Nintendo ni même PlayStation ne devraient être présents pour cette édition 2023 de l'E3. Alors j'imagine qu'ils vont parler de la concurrence, ou est-ce qu'ils vont pas en parler au bout d'un moment, parce qu'il y a Geoff Keighley qui est sur les rangs. Est-ce qu'ils en parlent? Bon, bref, il y a une nouvelle organisation. On verra ce que ça donnera. Là, c'est l'année de retour de l'E3. Peut-être que ça va être timide et peut-être que l'an prochain, ça ira mieux. On aura du coup, en tout cas, un retour en physique du 13 au 16 juin. Les deux derniers sont baptisés E3 Gamers Days et sont ouverts au grand public. Les portes de la convention, de la technologie et du gaming. Donc j'imagine qu'ils veulent aussi s'ouvrir à tout ce qui est accessoires, périphériques, console, PC, console, etc. pour renforcer la présence de marques. Donc j'imagine par exemple qu'ils vont essayer d'inviter des Asus, des MSI, des Medion et compagnie pour être présents, pour présenter leur PC portable de gamer ou des Corsair et tout ça, tout ça. Mais on n'aura pas les historiques du jeu vidéo. Et donc, ils n'en parlent pas trop dans l'article, mais du coup, il y a aussi Jeff Keighley, qui, depuis que l'E3 n'existe plus en 2020, on avait profité pour lancer son Summer Game Fest. Alors Jeff Keighley, c'est un producteur et c'est un acteur de l'industrie du jeu vidéo. Il s'occupe notamment de l'organisation des Game Awards, mais il ne fait pas que ça, il fait aussi l'ouverture de la Gamescom. C'est lui qui est en charge de la conférence d'ouverture de la Gamescom. Et depuis 2020, il fait aussi le Summer Game Fest, qui est une sorte de parapluie autour de l'ensemble des annonces et des conférences de jeux qui a lieu pendant tout l'été, le Summer Game Fest, et il en profite aussi pour faire quand même une conférence en début de, donc autour du mois de juin, d'ouverture de cette période là où tout le monde va essayer d'annoncer des trucs. Pourquoi ils annoncent tous des trucs là? C'est parce que c'est le meilleur moment pour annoncer des trucs qui vont sortir à l'automne. Et automne, c'est la période de vente des jeux, logique, c'est les périodes de fin d'année, Noël, Thanksgiving, tout ça. Vous-même, vous savez. Donc du coup, le mois de juin, c'est super important dans le jeu vidéo. Et c'est le moment où les gens sont prêts à parler plus sérieusement de leur jeu. Et donc, il y a Jeff Keighley qui a essayé de prendre un peu la place de l'E3 pendant quelques années. Et donc là, l'année dernière, il avait annoncé que pour la première fois en 2023, son Summer Game Fest va avoir le droit à quelques jours en physique pour la presse, donc un vrai salon. Donc il va y avoir une confrontation entre l'E3 et le Summer Game Fest physiquement. Et donc la question, là pour l'instant, on sait que Xbox, PlayStation et Nintendo ne sont pas présents à l'E3. Seront-ils présents au Summer Game Fest? Gros point d'interrogation. Peut-être que Jeff Keighley a réussi quelques bons coups dont il a le secret, ça reste à déterminer. Mais voilà, donc vraiment le salon historique du jeu vidéo, l'E3, pas du tout au meilleur de sa forme. Donc on verra bien comment ils réussiront à se placer. Après, c'est pas la première fois, théoriquement, dans l'histoire de l'E3, c'est pas la première fois que l'E3 vit des années assez sombres. Il y avait notamment eu quelques années autour de la sortie de la Wii qui avait été très compliquée, pour l'E3. Et après, ils avaient retrouvé de l'énergie. Donc bon, on verra bien ce que c'est. Après, bon, c'est un salon physique, donc ça concerne pas des masses de monde et c'est plus forcément d'actualité. À l'heure de Twitch, des conférences en ligne et de l'interaction directe entre les joueurs et les marques, l'E3, c'est aussi le signe d'un truc qui a plus forcément besoin d'exister, ou plus besoin de coûter aussi cher aux marques. Le nom d'un rassemblement où il y a le mot fest, je dis non. Ouais, alors oui, je le prononcerai mal, c'est le Summer Game Fest, comme un festival. C'est littéralement le festival du jeu vidéo de l'été, en traduction. On nous dit comme Xiaomi qui profite des annonces Samsung pour faire les leurs. Oui, c'est un peu toujours la confrontation pour essayer de tirer la couverture médiatique vers soi. On néglige ça, mais c'est quand même assez important, la couverture médiatique. Eh bien, comme le Oktoberfest, exactement. C'est la même chose, mais pour le jeu vidéo. Je suis d'une efficacité troublante dans la présentation des news ce matin. Je vous ai tout fait avant 10h35. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans les news Je voulais vous dire que il y a les augmentations de prix. Oui, voilà, des consoles qui sont sur le point d'arriver et le PSVR 2 du coup qui aussi en subit les frais. Pas vu de news sur la Xiaomi Car. Étonné car c'est très. Il y a trois belles photos sur la MS11. Ben, je regarderai ça dès que j'aurai fini le live, je ferai savoir. Alors, on a d'abord la mauvaise nouvelle côté PlayStation. La news qui nous vient de Takashi Mochizuki, qui est journaliste au Bloomberg, toujours. Oui, Bloomberg, toujours Bloomberg. Et qui nous raconte dans Bloomberg que c'est compliqué pour le PSVR 2 de Sony. Alors, le PSVR 2, ou le PlayStation VR 2, c'est le casque de réalité virtuelle de PlayStation qui doit sortir en février, si je me souviens bien. Et pour l'instant, les précommandes, c'est pas ouf. C'est-à-dire que Sony avait tout prévu pour que ce soit un carton, dans le sens où ils avaient fait un système de file d'attente, d'inscription, pour pouvoir être éligible à la précommande. Et en fait, ils ont vite abandonné tous ces systèmes-là, puisqu'il y avait juste pas assez de monde pour, de toute façon, remplir les files d'attente. Donc, en fait, il n'y avait pas besoin de file d'attente. Donc, vraiment, les précommandes sont décevantes, apparemment, les analystes pensent que Sony n'est pas assez sérieux à propos de la réalité virtuelle les précommandes sont décevantes. On a un peu d'infos avant le paywall fatal. Ils ont réduit leur projection de vente dramatiquement parce que les précommandes n'étaient vraiment pas bonnes, donc en gros ils ont diminué la production de PSVR 2. Il faut dire que pour mémoire c'est quand même un casque qui va être vendu assez cher, je crois à 600 euros, quelque chose comme ça. J'ai oublié le... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sur un bouton qui a, ça a fait un peu bizarre. Combien coûte ce casque? $550. Raté, j'ai vu French. J'ai vu French, mais c'était pas le bon French. Voilà, on est bien d'accord, c'est 599 €. Donc 599 € pour un accessoire de la PSV, de la PS5 qui coûte elle-même 550 €. Ça commence à faire assez cher. Et malheureusement, le line-up, donc les jeux qui sont disponibles en lancement, ont quand même été. Enfin, sont pas à la hauteur, en tout cas pas suffisamment convaincants, visiblement, pour générer beaucoup de précommandes entre ça et le prix de vente élevé. Donc malheureusement, voilà, ils ont baissé la production et pour l'instant, ça part assez mal. Donc ils voulaient avoir 2 millions... à la base, ils voulaient avoir 2 millions prévus pour le lancement et finalement, ils ont diminué à 1 million d'unités. Parce que vraiment la VR ça va pas être ça même sur console je pense que on peut en vouloir un petit peu au manque de suivi de Sony en termes de jeux vidéo, c'est-à-dire que il va y avoir Horizon Call of the Mountain comme gros jeu de lancement, il va y avoir un mode VR pour Gran Turismo normalement, mais au-delà de ça, Sony a pas annoncé grand chose, donc c'est difficile là en l'état. En fait, tout indique que le produit a l'air génial, mais va vraiment d'être le meilleur produit VR possible, hormis le fait qu'il est filaire, mais sinon tout le reste a l'air vraiment incroyable. Les retours haptiques dans les manettes, le rendu faux VR et le suivi du regard pour vraiment poser une expérience de pointe, ça a l'air vraiment d'être ce qui se fait de mieux pour un casque grand public. Et puis ça se branche, c'est filaire, mais ça se branche qu'avec un seul câble. Bref, ça a l'air très 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 bien technologiquement parlant. Le prix, malheureusement, est pas si déconnant vu la technologie embarquée, même si c'est cher. Le problème, ça va être les jeux, et visiblement pour l'instant les jeux ont pas l'air fous à la sortie, et donc il y a un peu la crainte qu'on va dépenser 600 € dans un truc qui va prendre la poussière au final, ou qui va rester dans un coin. Un peu le risque, notamment moi dans les trucs qui m'ont déçu, il y a le fait que ils aient pas annoncé une compatibilité du PSVR 2 avec le PC ou avec SteamVR notamment, et le sens inverse c'est le fait que ils aient pas annoncé une sortie de Half-Life Alyx sur PlayStation, je trouve ça dommage. Il aurait fallu aller chercher Valve et payer ce qu'il faut pour avoir le droit à avoir Half-Life Alyx sur PS5, parce que c'est le meilleur jeu disponible actuellement en VR, et ça aurait été fantastique sur PSVR 2. Donc assez triste. Hâte de voir si on a l'occasion de le tester, ce que ça donne de le brancher sur un PC, de voir si à quel point il est reconnu ou pas du tout. Mais voilà, un peu dommage que Sony ait rien annoncé dans ce sens-là, parce que du coup, ça veut dire que c'est vraiment pour l'instant officiellement seulement un accessoire de la PlayStation 5, et donc 600 € l'accessoire de la PlayStation 5 qui te suivra même pas si tu passes à la PS6, qui est pas rétrocompatible avec les jeux PSVR de la PlayStation 4, c'est un produit très compliqué, très très compliqué, pas sans intérêt parce que technologiquement encore une fois il a l'air très très cool, mais très compliqué. Et tant qu'on parle de prix, il y a si je retrouve l'info, il y a Xbox qui commence à annoncer ses augmentations de prix. Ils avaient déjà promis à la fin de l'année qu'ils allaient augmenter le prix de divers objets, de diverses choses. Ils ont déjà annoncé officiellement l'augmentation de prix des jeux. Par exemple, le prochain Redfall, leur prochain gros jeu, sort directement à 80 €. Donc ça y est, c'est le nouveau prix des jeux Xbox. Ils avaient prévenu que les autres trucs restaient augmentés. Que les accessoires et les consoles risquaient aussi d'augmenter. Et c'est le cas pour le Japon. Ils ont augmenté officiellement, depuis aujourd'hui, le prix de la Xbox Series S et X, qui a pris un peu de plomb dans l'aile au Japon, alors qu'elle avait déjà du mal à se vendre. Elle passe, la série X passe de 55 000 yens à 60 000 yens, et la série S passe de 32 000 yens à 38 000 yens. Je fais pas la conversion de tête, mais bref, ça augmente, et il y a des chances que le reste du monde suive l'augmentation du prix, est prévu pour le 17 février, donc il reste un peu de temps encore, mais 5 000 yens, j'imagine que ça fait à peu près 50 € environ. C'est à ça qu'il faut s'attendre, il faut s'attendre à ce que la série X passe à 550 € et que la série S, sur laquelle ils font un peu plus d'efforts, passe à quelque chose comme 330 € ou 340 € ou peut-être 350 € dans le pire des cas, mais je pense qu'ils vont essayer de faire encore un peu plus d'efforts sur cette console qui est conçue pour se vendre à un prix un peu plus serré. Ça va être compliqué pour Microsoft de vendre au Japon, sachant qu'ils avaient déjà du mal à vendre au Japon. Donc on verra. Et puis toujours dans les news jeux vidéo, d'ailleurs il faudrait que je fasse, si j'ai le temps, de la news sur Frandroid. C'est cette semaine où on devrait avoir des nouvelles du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, notamment au niveau de l'Union Européenne, un peu dans la dernière ligne droite avant les décisions. Donc on devrait au moins officiellement avoir une publication de l'avertissement cette semaine de la part de l'Union européenne contre le rachat avec les différents points qui gênent l'Union européenne et sur lesquels Microsoft va devoir négocier pour promettre, Call of Duty sur PlayStation et compagnie. Donc on verra. On nous dit 5000 yens, c'est 35 euros. Ah, donc ça a baissé. Il fut un temps où il suffisait de diviser par 100 pour avoir le prix. Pour du yen, a dû un peu tirer la tronche. Ou alors c'est dans l'autre sens. C'est l'euro qui a tiré la tronche. Je n'arrive plus à faire la conversion. Bref, non, c'est ça. Avant, avec 5000 yens, tu pouvais t'acheter 50 euros. Maintenant, avec 5000 yens, tu peux t'acheter 35 euros. Donc, c'est plus compliqué pour le yen. Ok. Et du coup, on verra ce que ça donne en France. De toute façon, les augmentations de prix sont réglées pour chaque pays. Donc on verra. Mais c'est surtout histoire de prévenir. Parce que le Japon en soi, ici, nous, sur le chat de Fandroid, je pense que. On n'est pas trop concerné, sauf s'il y a des gens qui vivent au Japon actuellement dans le chat, big up. Mais sinon, l'idée c'est de ce genre de news, c'est plutôt de dire attention, ça risque d'augmenter très bientôt. Bonne fin de matinée, Lord Jibus, et amuse-toi bien au marché. Moi, de toute façon, je vais bientôt vous laisser car il est déjà 10h46 et ce live touche à sa fin. De quoi vous parliez aussi également dans le chat tu as des news. Tu as le OnePlus Fold et le OnePlus Flip qui passent à la FCC. Bah, c'est marrant, du coup, la FCC, la FTC, c'est presque pareil. Alors, OnePlus Fold, voyons voir ça. Faisons la news en direct. Pourquoi je ne trouve pas l'info? Voyons voir. Je trouve avant la fin de ce live, rapidement, si je trouve l'info. Alors, je vois le OnePlus 11 qui serait passé devant la FCC. Ça, ouais, par contre, je vois pas d'histoire de Fold. Alors, par contre, je peux quand même vous parler. Visiblement, effectivement, il y aurait le OnePlus 11 5G qui serait passé devant la FCC. Bon, je vous le fais sans document parce que c'est pas forcément très intéressant à suivre. Et on n'apprend pas grand chose si ce n'est que il y aurait. Visiblement OxygenOS 13, le NFC et du Wi-Fi 7 avec du coup probablement un Snapdragon 8 Gen 2 à la surprise générale et c'était sarcastique puisque les smartphones OnePlus sont systématiquement la meilleure puce de Qualcomm en date au moment où ils sortent donc ce serait très logique que le prochain OnePlus ait le Snapdragon 8 Gen 2 ça me semble attendu voilà. OnePlus V Fold et V Flip, oui, j'en ai entendu parler, mais je crois pas que ce soit en rapport avec la FCC. Non, c'est juste des dépôts de marque pour le coup. Voilà, il y a le OnePlus qui a déposé la marque OnePlus V Fold et OnePlus V Flip. Donc respectivement, probablement un smartphone pliable façon Fold de Samsung ou version Flip de Samsung. Comme ça, au moins, on connaît. Enfin, les termes sont un peu utilisés de la même façon par toutes les marques. Mais c'est juste des dépôts de marque pour l'instant. Donc ça veut pas dire que contrairement, en fait, pour expliquer pourquoi je fais cette distinction, un dépôt de marque, ça n'engage en rien. Ça engage juste la marque à déposer la marque. Alors que la FCC, c'est pas un dépôt de marque, c'est la certification d'un produit pour être commercialisé aux États-Unis. Sois pas désolé, c'est juste ça me permet d'expliquer ce que c'est que la différence entre la FCC et le dépôt de marque. La FCC, c'est une des dernières étapes avant de commercialiser un produit. On doit le faire passer devant la FCC qui va faire des tests, notamment des tests. C'est tous les appareils qui utilisent des ondes électromagnétiques, donc le Wi-Fi, le Bluetooth, la 5G, la 4G, etc. Ils vont devoir passer des tests pour expliquer, pas pour démontrer quelle bande de fréquence ils utilisent, est-ce que c'est dangereux pour l'homme, etc. Donc la FCC va faire une série de tests et va certifier le produit et c'est obligatoire pour pouvoir commercialiser le produit aux États-Unis. Donc quand un produit est certifié par la FCC, ça veut dire que sa sortie approche ou en tout cas qu'il est prêt à être commercialisé par la marque, que la marque peut décider de l'annoncer et de le commercialiser. Un dépôt de marque, ça n'engage en rien, ils peuvent attendre 3 ans avant de sortir un produit, ça n'engage en rien. Quand il y a un produit qui est certifié par la FCC, comme ça coûte de l'argent de faire certifier, en général c'est plus significatif d'un produit qui va arriver bientôt. Là, par exemple, le fait que le OnePlus 11 5G passe devant la FCC, on se doute que le OnePlus 11 il va bientôt arriver. Voilà. C'était pour faire un petit point, ça permet de faire un petit point de distinction. C'est aussi à ça que sert ces lives, d'expliquer des choses qu'on ne réexplique pas forcément toujours dans nos articles. Donc, faut vraiment pas être désolé, au contraire, c'est très utile. Donc, je suis très content d'avoir pu expliquer ceci. J'espère que j'ai été un peu assez clair. Et en général, quand un produit passe devant la FCC, donc en fait, c'est la Federal Communication Commission quelque chose comme ça, aux États-Unis. Enfin bref, ce qui est en charge de la... C'est l'équivalent de l'ARCEP en France. Quand un produit passe là-bas, souvent il est sous embargo. La FCC n'a pas le droit de dévoiler officiellement des choses sur le produit. Elle a juste le droit de dire on a certifié ce produit qui porte tel numéro de produit, sans même donner son nom commercial. Il se trouve que des fois, il y a des petits cafouillages dans les dépôts des marques. Des fois, elles ne cochent pas les bonnes cases. Et des fois, pour le coup, il y a, par exemple, on a les photos du produit ou ce genre de choses. Alors souvent, c'est des photos assez moches parce que c'est des photos administratives. Donc c'est genre photos vues du dessus, photos vues de côté, avec le papier millimétré derrière et tout, pour avoir les mesures. Mais donc c'est des photos très cliniques, pas très jolies, qui ne mettent pas trop en valeur le produit. Mais au moins, ça permet d'avoir une vraie idée, pour le coup, justement, hors marketing, de l'apparence du produit. Donc c'est pour ça que des fois on a des photos un peu en avance aussi sur certains produits grâce à la FCC. Bon, c'est quand il y a des petites erreurs de la part des marques. Voilà. Alors, il est 10h52, donc ce live touche à sa fin cette fois. C'est bien, on a pu parler de OnePlus pour ajouter quelques minutes de live avant la fin. Où est-ce que je vais vous emmener? Je vais vous emmener chez Banjo Gaioli, qui fait de la musique. Vous allez pouvoir faire du télétravail avec de la musique, ça va être cool. Et moi, je vous rappelle qu'il y a la matinale du lundi au vendredi entre 9h30 et 11h sur Fandroid pour parler de l'actualité, pour parler de plein de choses. Vous pouvez poser plein de questions, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, vous pouvez commenter l'actualité avec nous, c'est très très cool. D'ailleurs, merci à tous et à toutes d'avoir été là pendant ce live et d'avoir suivi avec moi. Et puis, vous rappeler aussi que demain, il y a un live spécial Samsung dans l'après-midi. Vous avez toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Gros live, puisqu'il y a le Samsung Galaxy Unpacked avec l'annonce des Galaxy S23 et compagnie. Donc on va passer un gros moment, plein de choses en préparation sur Fandroid. Vous l'imaginez, vous le savez. Moi je vous dis du coup à très bientôt. Voilà. Continuez de nous suivre, merci beaucoup pour votre soutien et moi je vous dis à très bientôt et je vous emmène donc chez Banjo Gaioli qui fait de la petite musique et ça va vous détendre pour votre journée de télétravail. Voilà, amusez-vous bien et bonne journée à vous.